L'émission qui va suivre est une rediffusion. Restez à l'écoute.
7 milliards de voisins. Avec Emmanuel Bastide pour les voisins et les voisines.
Bonjour, bienvenue 7 milliards de voisins et de voisines. Aujourd'hui, l'entrepreneuriat au féminin. En France, 4 entrepreneurs sur 10 sont des femmes. Mais par exemple, les startups dirigées par des femmes lèvent 50% de fonds en moins que celles dirigées par des hommes. Résultat, près de 8 femmes sur 10 financent leurs projets avec leurs seules économies. On retrouve ces difficultés pour les femmes presque partout dans le monde. Alors comment expliquer et dépasser ces freins? Nous allons en parler avec nos invités. Bonjour Marie-Éloi.
Bonjour Emmanuel, bonjour à tous.
Vous êtes présidente et fondatrice de Bouge ta boîte, un réseau qui vise à aider les entrepreneuses de tous horizons d'ailleurs, à mieux développer leur structure grâce à l'entraide féminine. Vous allez nous raconter comment fonctionne ce réseau. Pour certains auditeurs qui ont une bonne mémoire, ils se souviendront peut-être avoir entendu votre voix. Vous avez dans une autre vie été journaliste pour RFI. Vous nous raconterez aussi comment vous êtes tombée dans l'entrepreneuriat. Marie-Alix de Puter, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes entrepreneuse, alors là vous tentez plutôt de mettre en place un réseau de femmes business angels, c'est-à-dire des femmes riches, financeuses, mais financeuses d'entrepreneuses femmes. Ça n'existe pas encore aujourd'hui, ce réseau entre femmes pour trouver des financements, et on le sait, le financement c'est vraiment le nerf de la guerre pour tous les entrepreneurs, mais encore davantage pour les femmes. On sera également en ligne avec Mamisa Nzigiré Poindron, qui est congolaise, elle est fondatrice de l'agence Privilège à Kinshasa en RDC. Et quant à vous les voisines, surtout appelez-nous dès maintenant, on attend vos questions, vos témoignages d'entrepreneuses. Comment vous vous sentez considérée par votre entourage? Quels sont vos problèmes au quotidien aussi liés à votre condition de femme? Appelez-nous, ne laissez personne d'autre parler à votre place. Le numéro de téléphone, c'est aussi un numéro de téléphone gratuit sur WhatsApp, 33 1 84 22 71 71. On attend vos appels.
7 milliards de voisins.
Il y a des talents sur lesquels moi je parie.
Vraiment, l'Afrique regorge de talents.
Mais tout de suite, direction l'Afrique. C'est le continent où l'entrepreneuriat des femmes est le plus évident, facilité aussi par le poids du secteur informel. Écoutez tout de suite le témoignage de Joyce Lungu. Elle a 60 ans, cheveux courts, regard qui en impose, sourire convivial. Elle a grandi dans un village de l'est de la Zambie, à 500 km de la capitale Lusaka. Elle est aujourd'hui une micro-entrepreneuse accomplie, mais aussi un relais, voire un modèle pour sa communauté. Charlie Dupio l'a rencontrée à l'occasion du sommet des villes et des collectivité territoriale d'Afrique, Africité.
Je me suis mariée en 1976. C'est là que je suis venue vivre à Lusaka. J'avais 17 ans, mon mari travaillait là-bas, comme opérateur dans une usine. Je me disais qu'en allant à la capitale, j'aurais une belle maison, une grande maison. J'ai été surprise quand j'ai compris qu'on allait vivre dans un bidonville. Je me demandais pourquoi j'étais là. Parce que nous n'avions pas de toilettes, ni de lit digne de ce nom. Nous dormions sur le sol. J'ai dit à mon mari, « Qu'est-ce qu'on fait là? Pourquoi on ne rentre pas à la maison? Au village, on serait mieux qu'ici. Là-bas, on peut aller dans les champs et cultiver de tout. Des légumes, du maïs. Mais dans la capitale, tout s'achète. Si vous n'avez pas d'argent, vous dormirez avec la faim au ventre. » Mon mari m'a dit, « Non. » On reste, ça va aller. Mais un peu plus tard, sur son lieu de travail, il a été victime d'un accident. À cause d'une machine, il a perdu 4 doigts.
Il n'était plus capable de travailler ensuite.
Non, il restait assis à la maison. Et moi, je gagnais de l'argent. Je cuisinais des beignets. Dès lors, c'est moi qui ai permis à la famille de survivre. Grâce à mes ventes, je peux nourrir mes enfants et leur permettre d'aller à l'école.
Combien de beignets est-ce que vous cuisiniez par jour à cette époque-là?
Je vendais près de 1500 beignets chaque jour. Nous vivions près de l'école du quartier, donc les élèves venaient chez moi m'acheter mes beignets. Chaque jour, j'en vendais pour $100. Il fallait acheter la farine, le sucre, l'huile de friture. Dans ma poche chaque jour, il restait $20. C'était mon profit.
Vous étiez la businesswoman des beignets.
Oui, on peut dire une businesswoman, je vendais bien. En 2001, l'ONG Slum Dwellers International, qui agit dans les bidonvilles, est venue en Zambie pour nous mobiliser. Je les ai rejoints immédiatement. Nous avons lancé des groupes d'épargne entre femmes. Nous nous accordions des petits prêts pour lancer des micro-entreprises. Moi, j'étais déjà dans les affaires. Mais quand j'ai pu emprunter de l'argent auprès de mon groupe d'épargne, j'ai commencé à acheter des vêtements d'occasion et à les revendre. Au sein de notre groupe, la plupart des femmes membres passaient leur journée assises à ne rien faire. Elles ont commencé à épargner et à tirer un certain revenu de ces prêts entre femmes, puisqu'il y a un faible taux d'intérêt, et puis à souscrire des emprunts. Chacune s'est mise à lancer sa petite affaire. Moi, j'étais très heureuse de participer à mobiliser les femmes, à les convaincre de se rassembler pour épargner ensemble. Je continue à m'engager dans ce sens. Depuis 2001, je n'ai pas arrêté. Nous n'avons pas peur du gouvernement. Si nous voulons quelque chose, nous allons voir les élus locaux et nous leur disons « c'est ça que nous voulons ». La ville de Lusaka compte 37 bidonvilles. Jusqu'à il y a quelques années, nous n'avions pas accès à l'eau potable dans la communauté. Alors nous sommes allés en parler à nos élus. À cette époque-là, on récupérait l'eau dans des puits peu profonds. Ce n'était pas de l'eau de qualité. Elle était très vite contaminée par le choléra, tout le temps. La dernière épidémie remonte à 2014. J'ai des voisins qui sont morts du choléra. Mais pour l'eau, nous n'avions pas d'alternative. Alors nous nous sommes rassemblés, les habitants, pour fabriquer notre kiosque de distribution d'eau, notre poste à eau. Un tel kiosque dessert 25 maisons.
Et donc vous, par exemple, combien vous avez donné pour ce kiosque ?
Tout le monde a donné 10 dollars. Nous avons tous économisé pour cela, afin de pouvoir fabriquer plusieurs de ces kiosques. Et on a dit aux élus, regardez ce que nous avons fait. Maintenant, c'est à vous d'amener l'eau jusqu'ici, pour la connecter à nos kiosques. C'est à vous de fabriquer des canaux, et c'était gagné. Le gouvernement nous a amené l'eau, de l'eau traitée. Chaque famille a droit à 100 litres d'eau par jour. Quant à moi aujourd'hui, j'ai complètement arrêté de vendre des beignets. Je ne vends plus que des vêtements d'occasion maintenant, sur le marché. J'ai gagné tellement d'argent que j'ai pu m'acheter un terrain, vous imaginez ? Rien qu'avec l'argent de mes ventes. Puis j'y ai construit ma maison, une maison de 6 pièces. Donc maintenant, je suis propriétaire. J'ai 6 enfants et 7 petits-enfants. Et je ne cesse de mobiliser d'autres femmes comme moi dans le bidonville pour qu'elles se rassemblent, qu'elles économisent et qu'elles puissent changer leur vie.
Marie-Éloi, Alix de Puter, qu'est-ce que ça vous évoque, cette l'histoire de Joyce Lungu, partie de rien dans un bidonville ? Marie-Alix ?
Malheureusement, c'est souvent le cas pour les femmes en Afrique et même d'ailleurs pour les femmes partout. C'est un peu comme si on n'avait pas le choix. En fait, c'est l'entrepreneuriat, de survie. Donc, vous n'avez pas le choix, donc vous y allez, vous n'avez plus rien à perdre. D'ailleurs, on observe aussi qu'en France, notamment en tout cas dans les pays occidentaux et donc dits développés, les femmes, c'est quand elles ont en moyenne la quarantaine qu'elles se lancent beaucoup plus dans l'entrepreneuriat. Donc, c'est souvent des questions de survie.
Marie-Éloi ?
J'ai trouvé admirable le témoignage de Joyce. On y retrouve tous les ingrédients de l'entrepreneuriat féminin. Donc, le courage, il n'y a plus le choix, donc il faut y aller. Et ça, c'est vraiment le moteur de l'entrepreneuriat féminin. Il n'y a plus le choix, il faut y aller. Il y a aussi le sens, tout ce qu'elle a fait ensuite pour sa communauté, avec la solidarité des autres femmes. Et ça marche beaucoup, justement, cette solidarité entre femmes, parce qu'il y a une identification. Donc, on retrouve vraiment... tout ce qu'il y a dans l'entrepreneuriat féminin,
c'est... Et surtout un succès business aussi.
Succès business magnifique. Si
vous imaginez... beignets sont abandonnés, ce sont les vêtements d'occasion, donc déjà être capable de changer de marché.
Parce qu'elle a eu accès au financement. On voit un peu tout ce que pourraient développer les femmes dans le monde et sur le continent africain notamment, parce que c'est le premier continent de l'entrepreneuriat féminin, ça peut tout changer dès qu'elles auront accès au financement, à tous les codes économiques, etc. Donc c'est ça qu'il faut booster aujourd'hui.
Alors vous êtes aussi là pour raconter vos histoires personnelles et ce que vous essayez de monter, mais vous le disiez, Marie-Élix de Puter, les femmes se lancent souvent dans l'entrepreneuriat parce qu'elles n'ont pas le choix, parce qu'il s'est passé quelque chose dans leur vie qui fait qu'il faut y aller. C'est-à-dire qu'elles s'imaginent rarement en tant qu'entrepreneuses au départ comme une réalisation personnelle finalement, contrairement aux hommes ou pas.
En fait, je veux dire que ça dépend. Si on revient par exemple sur le cas de l'Afrique, On constate qu'il y a des disparités, parce qu'on a parlé du chiffre de 24 à 25% de femmes entrepreneuses en Afrique, et souvent on constate qu'il y a des disparités selon les pays. Donc effectivement, au nord de l'Afrique, on va avoir moins de femmes qui vont être entrepreneuses que dans le sud du Sahara. Donc effectivement, il y a une corrélation parfois entre la situation économique, en tout cas de précarité, dans laquelle les femmes se trouvent, et leur volonté de s'engager dans l'entrepreneuriat, mais il y a aussi une volonté de faire les choses par nous-mêmes. Et en fait, quand on parle du projet, par exemple, que je porte aujourd'hui avec mon associé Cathy Moukoko et qui consiste justement à créer un réseau de femmes business angels à l'international, dont l'objectif est d'investir ensuite dans des projets portés par des femmes en Afrique. L'idée, c'est de créer effectivement cette solidarité entre femmes, en fait, cette sororité en fait, dans laquelle on croit, mais aussi se dire que c'est pas seulement une question de précarité, c'est une question de justice et de justice sociale. Après, moi, je suis une féministe prosélyte, mais je sais pas ce que tu en penses, Marie.
Marie-Éloi. Ouais, moi, je suis entièrement d'accord avec toi, parce qu'en fait l'entrepreneuriat féminin, je n'ai pas rencontré une femme qui a dit moi j'ai créé mon entreprise pour le pouvoir ou pour l'argent. Oui. Par contre, pour le sens, oui, pour un impact social, sociétal, environnemental, toujours.
Mais Marie-Lix de Buterre, vous êtes devenue entrepreneuse à cause ou entre autres de circonstances tragiques. Hein, votre mari, enseignant français, vous êtes camerounaise, a été assassiné au Cameroun en 2012 sur le campus de l'université protestante de Yaoundé. À ce moment-là, vous n'étiez pas une entrepreneuse.
Ah, mais pas du tout. Juste pour... merci d'évoquer cette tragédie personnelle. Et d'ailleurs, RFI a été un des médias qui suit l'actualité et qui suit le sujet. Et d'ailleurs, j'en profite pour vous remercier pour cela. Aujourd'hui, il s'agit surtout de parler de 312 millions de femmes en Afrique qui essayent de s'en sortir. Et effectivement, à cette époque-là, j'étais pas du tout dans une dynamique d'entrepreneuriat. Et quand on me demande aujourd'hui, mais pourquoi tu te lances dans un projet de business angel, je lui dis c'est très simple. Les femmes jamais ne s'occupent véritablement de leur situation économique quand elles n'en ont pas forcément besoin. Donc la question de gestion de patrimoine ne se pose pas. Et pourtant, nous sommes les premières victimes en cas de décès, pour mon cas, ou en cas de séparation ou de divorce pour d'autres, ou bien les femmes qui élèvent toutes seules leurs enfants. Nous sommes les premières victimes d'un système économique qui n'a pas été pensé pour nous, qui a été pensé pour et par les hommes. Donc aujourd'hui, il est temps de changer les paradigmes et nous-mêmes d'en créer de nouveaux.
Ouais, et donc, à commencer par l'argent, il faut que les femmes apprennent à parler d'argent. Mais ça, on va en parler. Marie-Éloi, je le disais, vous avez été journaliste à RFI. Vous avez commencé d'ailleurs votre carrière d'entrepreneuse par un projet social qui n'était pas du tout destiné à rapporter de l'argent. C'était une école Montessori en Bretagne. Ensuite, il y a eu Femmes de Bretagne avec une approche collaborative, solidaire, mais toujours pas de business vraiment à la clé. Comment vous êtes devenue entrepreneuse ensuite?
Mais ça, c'est grâce à vous, Emmanuel. À force de travailler pour vous et votre émission et de rencontrer des gens passionnants par le monde, ben, j'ai eu envie, moi aussi, de faire des choses, de créer des choses. J'ai découvert l'entrepreneuriat en cofondant d'abord une école Montessori et j'ai vu qu'à partir d'une idée, ben, on pouvait fédérer, on pouvait changer la vie de gens, et là, en l'occurrence, d'enfants, et que ça pouvait marcher, et que le management, tout ça, ça s'apprenait. Et puis, effectivement, après, j'ai créé une association d'entraide pour aider les femmes à entreprendre, parce que moi-même, je me sentais pas légitime pour oser pousser la porte d'un réseau d'accompagnement à la création d'entreprise. Et je me suis dit, ça serait super qu'on mette en lien toutes les femmes pour s'entraider, parce que la solidarité féminine, c'est juste incroyable, pour s'entraider et créer nos entreprises. Et ça cartonne, parce qu'on on fait 350 événements par an en Bretagne, qui est une toute petite région. Donc
maintenant, ça s'appelle Bouge ta boîte.
Et maintenant, la suite, c'est ce qui m'a sidérée, en fait, c'est que j'ai constaté que la plupart des femmes entrepreneurs, eux, en France, ne vivent pas correctement de leur activité. On estime que 80% des femmes entrepreneurs dirigeantes ne vivent pas de leur activité. Donc on crée des entreprises, mais pas pour en vivre. Donc ça veut dire que si on crée, nous, nos entreprises pour du sens, bah finalement, on donne aucun impact à ce sens. Et on n'a non plus aucun poids économique dans le monde. Et ce qu'il faut, c'est de l'équilibre. Ce qui marche, c'est de l'équilibre.
Et alors, quel est le principe de Bouge ta boîte?
Alors, Bouge ta boîte, c'est un réseau business féminin. Ça fonctionne en cercle d'entrepreneurs, eux, une par secteur d'activité. Donc, vous avez une personne dans l'hôtellerie, une personne graphiste, une dans la communication, une qui est notaire, une avocate,
donc,
etc.
Elles ne sont pas concurrentes entre elles.
Toutes complémentaires.
Dans un cercle.
Exactement. Elles sont toutes complémentaires. Elles sont maximum 20. Il peut y avoir plusieurs cercles dans une ville. Et elles se retrouvent tous les 15 jours pour un programme hyper structuré, hyper efficace. On commence à l'heure, on finit à l'heure et il y a tout est minuté à l'intérieur pour qu'elles puissent à la fois pitcher, brainstormer et se recommander les unes les autres
à l'extérieur du territoire. L'objectif, c'est de générer du chiffre d'affaires grâce au sens, à la solidarité entre elles.
Comment une pâtissière peut aider une femme qui vend des vêtements d'occasion ?
Eh bien, en fait, à force de se voir tous les 15 jours, les autres vont devenir votre force de vente, parce que vous allez les former tous les 15 jours à votre métier, à votre expertise, et elles vont devenir votre force de vente, et en même temps, votre comité stratégique. C'est-à-dire que souvent, elles sont seules, les femmes entrepreneurs, et elles vont retrouver tous les 15 jours des personnes qui vont les soutenir dans leurs objectifs, à les atteindre, etc. Donc une pâtissière, elle rencontre des tonnes de clients dans la journée, et elle va rencontrer des mamans qui disent « Ah, oh, mon petit, il a encore grandi, Ah, mais tu sais pas, des vêtements d'occasion, justement, il y a... Et voilà, et ça se fait comme ça, la recommandation, le bouche à oreille, organisé.
Ouais, avec des professionnels qui les coachent et qui leur donnent des conseils business. Marie-Alix de Puter, vous êtes, donc vous le disiez, votre projet à l'heure actuelle qui a du mal à démarrer, c'est de proposer du financement pour les femmes avec des business angels. Donc là aussi, c'est l'idée de cet entre-soi, entre femmes. Pourquoi toutes les deux, vous avez des projets qui sont vraiment construits sur cet entre-soi ?
Alors, je n'emploierai pas le terme d'entre-soi. Nous sommes partis du constat suivant. Selon le Global Entrepreneurship Monitor, près de 30% de femmes abandonnent leur projet en cours de route à cause de manque de financement. Les femmes ont du mal à passer en fait des caps, donc passer de micro-entreprises à des entreprises plus importantes à cause du manque de financement, à cause du manque de réseau, à cause du manque de formation. L'autre situation, on en a parlé, c'était une situation personnelle où je me suis rendu compte que je me suis retrouvée sans rien. C'est-à-dire, j'avais pas d'appartement, j'avais pas de revenus, j'avais rien. Et donc, à ce moment-là, l'idée, c'est pas seulement de créer un réseau qui va connecter les femmes business angels avec des femmes entrepreneurs. Ça va aussi être de former les femmes au métier de l'investissement et de comprendre finalement ce que ça veut dire investir. Parce que souvent, on a aussi le syndrome de l'imposteur où on a l'impression qu'on n'est pas à sa place. Donc, du coup, on n'ose pas investir alors qu'on pourrait le faire. Et vous parliez tout à l'heure de femmes riches. En réalité, il faut savoir que les femmes business angels en moyenne en Europe, il y a une étude qui a été menée par le réseau FBA en partenariat avec un réseau européen sur financement de l'Union européenne, montre que les financements en fait des femmes business angels vont de 5 000 à 25 000 euros. Donc là, on parle en euros. Donc vous imaginez ce que ça représenterait pour des entrepreneurs sur le continent. Ensuite, le troisième volet de notre projet, c'est de financer directement les projets nous-mêmes dans les secteurs que sont donc traditionnellement, donc effectivement, donc l'agriculture, l'énergie, la santé, l'éducation et les industries culturelles et créatives. Donc, dans quelques pays qui ont été définis, on aura l'occasion d'en parler plus longuement.
Et vous, ça va être sur le continent africain. Globalement, est-ce que en France, dans quel domaine les femmes entreprennent-elles ? Est-ce qu'on retrouve la même division des métiers que pour les salariés ? C'est-à-dire, on va trouver plus d'hommes qui entreprennent dans le bâtiment, les transports, etc., que de femmes ?
Oui, alors effectivement, on retrouve cette classification tout à fait classique, hein, plus de femmes dans les services, la communication, etc. Et moins dans le bâtiment, même si on en trouve. Et par contre, je voulais aussi rebondir sur ce que vous disiez sur l'entre-soi. Alors, c'est pas du tout de l'entre-soi. L'intérêt d'un réseau féminin, pourquoi on se retrouve entre femmes, c'est tout simplement parce que nous, femmes entrepreneurs, on manque de rôle modèle. Et ça, c'est clé. Je lisais récemment, dans les 1000 personnalités les plus médiatisées en France l'année dernière, dans la catégorie patron, il n'y avait que 1% de femmes. Donc on manque de femmes entrepreneurs comme nous, et donc on manque de légitimité parce qu'on se dit, on a l'impression de s'attaquer à une voie de l'entrepreneuriat avec la machette toute seule, si on ne voit pas d'autres exemples devant nous.
Et c'est exactement en fait la situation que nous vivons avec mon associé, qui est, nous sommes deux femmes jeunes noires en France, les difficultés se rajoutent, et donc forcément on a besoin d'être ce qu'on a besoin de voir. On a besoin de...
Donc, pardon, dans un réseau féminin, c'est pas contre les hommes, hein, pour être bien clair, c'est pas non plus pour vivre recluse entre nous, c'est simplement pour s'identifier les unes aux autres, on vit les mêmes problématiques, et donc se booster.
Et néanmoins, vous n'avez pas les mêmes freins psychiques, d'ailleurs, que les hommes. On va en parler, mais bien sûr, on vous donne la parole, vous nous appelez au 33 1 84 22 71 71. On accueille une voisine qui nous appelle de Port-Gentil, au Gabon. Bonjour, Reine.
Bonjour.
Reine, vous êtes devenue...
Et bonjour à tous les invités.
Et
bonjour,
Reine. On est ravis de vous accueillir, Reine. Vous avez créé il y a 2 ans une entreprise de pêche dans le village dont vous êtes originaire, c'est bien cela ?
Oui, c'est bien ça.
Racontez-nous.
L'aventure a commencé avec le constat que j'ai pu faire en remarquant que le village s'était complètement vidé. et les populations se repliaient beaucoup plus sur Port-Gentil, la capitale économique, à la recherche d'emploi en fait. Et c'est comme ça que j'ai été motivée en me disant, ben, pour les ramener, il faudrait bien qu'ils aient une occupation, un emploi qui puisse leur permettre d'assumer leurs charges familiales.
Et comment vous avez fait? Il a fallu trouver de l'argent pour investir ou vous pouviez démarrer avec très peu?
Trouver de l'argent. J'ai démarré avec très peu sur fonds propres et c'est le cas jusqu'à présent. Donc, je suis obligée de sous-traiter pour les motiver. Je sous-traite, je leur permets donc de faire la pêche. Je récupère le produit de leur pêche que je sale et que je fume. Pour le revendre par la suite.
Vous revendez le poisson où? Alors à Port-Gentil, à des établissements,
pour le
à des
moment,
restaurants?
À Port-Gentil, à des privés pour le moment, parce que justement, on n'a pas l'appui au niveau de la communication. Les grandes surfaces sont plus ou moins réticentes à prendre nos produits, parce que, bon, nous ne sommes pas de grosses entités, il faut le dire, ce sont des maisons qui sont plus tournées vers l'importation des produits qui viennent de l'extérieur, on va dire de la France principalement.
Rennes, vous aviez des qualifications en business au départ?
Pas du tout, je suis comptable public. Dans le secteur public, je n'ai pas de qualification particulière ou de formation. Mais maintenant, je me forme toute seule et avec l'expérience et puis...
Vous vous formez toute seule, donc qui vous aide au quotidien? Qui vous a coaché? Est-ce qu'il y a eu d'autres femmes qui ont été importantes pour vous réaliser?
Partons d'un cheminement. En amont, j'ai beaucoup plus milité dans des ONG, d'assistanat aux femmes, notamment aux femmes détenues. Mais après, bon, sur une plus grande... réflexion, je me suis dit que je devrais beaucoup plus me concentrer sur ce projet qui m'est cher parce que je voudrais pouvoir développer quelque chose, un pôle économique plus ou moins.
Avec une pêche locale. Donc, est-ce que le projet est rentable aujourd'hui?
Je ne me plaindrai pas, mais la satisfaction n'est pas totale. J'avoue, parce que je me suis rendu compte que les principaux concernés, acteurs, je veux dire, ce sont des hommes. Or, des hommes, pour les fixer, les sédentariser, il faudrait qu'ils aient leur famille à côté. Jusqu'à présent, je ne suis pas arrivée à mon objectif, je n'ai pas atteint mon objectif, parce qu'ils sont à chaque fois obligés de faire des relais pour pouvoir avoir des temps de récupération et repartir sur Port-Gentil, retrouver leur famille. Or, ce qui a beaucoup plus motivé leur exode, c'est qu'ils sont obligés de ils ont été obligés de partir sur Port-Gentil, non seulement pour avoir des ressources, mais surtout pour scolariser leurs enfants. Et donc, mon objectif pour pouvoir les sédentariser, c'est maintenant de pouvoir leur permettre d'avoir leur famille sur place, notamment avec leurs épouses et leurs jeunes enfants, qui auront au moins les bribes et la scolarisation jusqu'au niveau primaire.
C'est intéressant, Reine, de vous entendre, parce que vous comprenez bien la globalité du problème, en fait. Vous avez une approche business et en même temps une approche tout à fait sociale. On est d'accord, non, Marie-Alix de Puter?
Oui, tout à fait. Merci beaucoup pour votre témoignage, Reine. Et c'est vraiment emblématique de l'entrepreneuriat au féminin, ce témoignage de Reine.
C'est le sens. Ouais. C'est les femmes qui bougent le monde, hein. Ce sont les bougeuses.
Reine, qu'est-ce qui vous manquerait aujourd'hui pour que ça fonctionne, pour que ça décolle, pour sédentariser les pêcheurs, comme vous dites, c'est pas une mince affaire, surtout quand on est une femme.
Et
persuader les clients d'acheter votre marchandise, surtout.
Exactement, oui. Parce que jusqu'à présent, je vends au privé et donc c'est dans un réseau de bouche à oreille. Et quand on a 50 kilos de poisson par semaine. Pour pouvoir les écouler, c'est un peu compliqué.
Ouais. En tout cas, vous donnez l'impression d'avoir de la carrure, hein, Reine.
Ben, je vous remercie sans me connaître, mais je sais. Je crois.
Un message à faire passer aux voisines. Un message à faire passer aux voisines qui nous écoutent et qui sont entrepreneuses elles aussi.
Mais déjà, pouvoir intégrer ce réseau, parce que tel que l'une de vos invitées le disait tout à l'heure, on est confronté à ce problème du fait que nous soyons des femmes. Et que nous ne nous confinons pas à nos rôles de femmes, entre guillemets. Parce qu'au passage, moi, je suis fonctionnaire au départ. Mais ça, ce serait donc une activité annexe,
oui,
annexe que je mène. Mais demander vraiment qu'on se mobilise à celles qui sont sur le plateau, les voisines éventuellement, si elles, même si elles sont dans d'autres pays, prendre contact avec moi, savoir si nous pouvons lier des partenariats pour pouvoir faire des échanges.
C'est ça, des échanges, de la motivation,
le marché,
c'est ça, de la motivation, de l'expertise aussi, et puis partager ces contacts business. Merci beaucoup, Reine, de nous avoir appelés. Vous pouvez continuer de nous téléphoner, les voisines, au 33 1 84 22 71 71.
7 milliards de voisins.
7 milliards de voisins, c'est 7 milliards de solutions possibles.
Communiquons le plus possible.
Plus qu'une émission, c'est devenu une famille.
Tout part d'un rêve. Tout part d'un rêve.
C'est 7 milliards de cœurs qui se mettent en commun pour qu'on n'en forme qu'un seul.
Alors, si on reprend le réseau Bouge ta boîte, Marie-Éloi, néanmoins, est-ce que y a un modèle économique, hein, dans Bouge ta boîte, on est bien d'accord, là, ce n'est pas une association de bienfaisance. Les adhérentes qui rentrent dans un cercle, hein, pour s'entraider avec d'autres femmes, d'abord, il faut qu'elles soient choisies, on est d'accord, hein.
Alors, elles sont accepté à l'unanimité par les autres bougeuses parce qu'on ne veut pas de ronchons dans les cercles. On prend que les super énergies, les super motivées, celles qui bougent. On s'appelle les bougeuses. Donc on est là pour bouger les lignes de l'entrepreneuriat féminin, bouger nos territoires, bouger nos boîtes ensemble.
Elles sont choisies, mais en même temps, elles sont vos clientes puisqu'elles payent une adhésion chaque année.
Voilà, alors en France, pour l'instant, on est en pilote sur le continent africain à Kinshasa, mais en France, on est à 49 euros par mois. C'est trois fois moins cher que les autres réseaux business mixtes. Nous, on est le seul réseau business féminin. Et ça, c'est possible parce qu'on a énormément de salles prêtées partout, parce qu'on a des personnes qui croient en nous et qui nous aident, parce que l'engagement sociétal, il est là.
Mais est-ce que c'est facile psychiquement pour les femmes de se dire, je paye 49 euros tous les mois quand je démarre un tout petit business avec d'énormes galères financières?
Oui, alors effectivement, les femmes, nous...
À quoi ça va me servir, se disent-elles, non ?
Oui, alors nous, les femmes, déjà, on n'a pas l'habitude de réseauter. Hein, parce que les business, ils se font au café le matin, le soir. Et nous, le matin, le soir, on n'est pas au café, on est avec tous les enfants. Ouais. Donc on se dit, bon, on ne va pas prendre le temps de réseauter. Et ça, c'est une erreur. Parce que le business, il se fait lors du réseautage. Donc nous, on a mis tous nos moments de réseau du cercle Bouge ta boîte le midi, pour qu'on puisse justement y aller. La deuxième chose, c'est qu'on n'a pas l'habitude, nous femmes, de mettre de la valeur pour nous, de mettre de la valeur dans un réseau. Et effectivement, ça leur rapporte, puisque ça leur rapporte du chiffre d'affaires, ça leur rapporte un comité stratégique, une force de vente, etc. Et en trois mois, l'adhésion, elle est remboursée. Donc ça vaut le coup.
Est-ce qu'il y a un problème de modèle à l'heure actuelle pour les femmes qui se lancent dans l'entrepreneuriat ? C'est-à-dire un problème de modèle, aussi bien d'ailleurs dans les toutes petites entreprises que dans les très grosses entreprises. Est-ce que c'est un détail, ce problème de modèle ou pas, psychiquement, pour vous,
Quand vous parlez de modèle, c'est de représentation ?
Oui.
Il y a énormément de freins, en fait, pour le leadership féminin. Et en fait, autant il y a des freins et autant il y a des solutions. Et je pense qu'on a beaucoup parlé des freins et on a beaucoup parlé de tout ce qui nous empêche de faire ce qu'on pourrait faire et dont on sait qu'on peut mieux le faire. Donc, il faut rappeler aussi des choses qui sont hyper positives. La première chose, c'est, si je me concentre sur le domaine d'ailleurs qui me concerne aujourd'hui, sur l'investissement, on se rend compte que les femmes ont accès, notamment en Afrique, à 6 fois moins de financement que les hommes, alors qu'elles sont celles qui remboursent le plus tous les prêts qu'elles perçoivent. Donc, déjà en termes de rendement économique, si on se limite strictement au langage business, il est plus intéressant d'investir dans une femme que dans un homme. Déjà.
Donc, clairement.
Voilà.
Donc, y compris pour le microcrédit. Hein,
y compris pour le microcrédit. Et en fait, c'est l'échelle qui manque souvent, c'est comment je fais pour passer un cap. Et ça, c'est vraiment aussi important de parler de mentoring. Et on parlait tout à l'heure de motivation et pourquoi c'est important de discuter avec d'autres femmes qui auront peut-être réussi à faire ce que je n'ai pas réussi à faire à ce moment-là. Il y a le mentoring. Et moi, je dis souvent, ça ne sert à rien de mentorer quelqu'un qu'on ne sponsor pas. Donc, il y a la différence, c'est je mentor, donc je te donne des conseils. Je te sponsor, c'est je te recommande. Donc voilà, il est temps. Les femmes ont besoin à la fois de mentorat, mais aussi de sponsors et aussi d'investisseurs, parce que de toutes les façons, elles sont plus rentables que les hommes. Il faut le répéter et le répéter et le répéter.
Et ce que fait Marie-Alix de Puter est essentiel, parce que comme on a très peu de femmes business angels, par exemple en France, c'est 7%, c'est toute la chaîne en fait qui en pâtit. Parce que naturellement, il y a du coup peu de femmes qui sont financées par des fonds d'investissement. C'est 2% des fonds d'investissement en France qui sont attribués aujourd'hui à des entreprises cofondées par des femmes, même pas fondées. 2% des fonds.
C'est
donc comment voulez-vous qu'on...
Incroyable ces chiffres.
C'est terrible.
Les voisines, on parle de l'entrepreneuriat au féminin. Quel frein ? Comment dépasser les difficultés ? Bien sûr, on va parler de l'accès au financement, au crédit. Encore plus compliqué, vous l'avez compris, pour les femmes. En France, une femme lève 2 fois moins d'argent pour créer une start-up qu'un homme. On l'a dit au début de l'émission. Vous nous appelez pour témoigner où que vous soyez dans le monde d'ailleurs et quelle que soit votre activité. 33 1 84 22 71 71. I know every corner. Jane qui chante City chez 7 milliards de voisins. On est en direct sur RFI du lundi au vendredi et aujourd'hui, seule la voix des femmes compte dans l'émission. On parle de l'entrepreneuriat au féminin. Vous nous appelez au 33 1 84 22 71 71. On donne la parole à une voisine qui nous appelle d'Abomey-Calavi dans la banlieue de Cotonou. Bonjour Eunice.
Bonjour Emmanuel.
Eunice, alors vous avez 23 ans, vous êtes professeure d'anglais et... joaillier, joaillière de perles, c'est l'activité que vous voulez développer à l'heure actuelle ?
Oui, c'est bien sûr une activité que je veux développer actuellement.
Expliquez-nous.
Oui, la formation, je l'ai commencée en 2015, mais ce n'était pas pour l'entrepreneuriat. En réalité, c'était juste pour piller le temps en tant qu'étudiante.
Oui.
Mais au fil du temps, avec les recherches, j'ai compris que le monde actuel a besoin d'entrepreneurs, surtout du côté des femmes. Lorsqu'on prend les plus riches au monde actuellement, quand on prend Max du Québec, il est entrepreneur. Quand on prend Jeff Bezos, il est entrepreneur. Donc, c'est de là qu'est venue l'idée d'entreprendre dans ce domaine de l'art. Nous confectionnons des pratique en perles, c'est-à-dire des colliers, des sacs, tout est en perles. Donc j'ai dû faire la formation estimée en tant que joailleur de perles.
Et vous êtes combien aujourd'hui ? Vous avez un atelier pour confectionner ces bijoux, ces accessoires en perles ?
Par un atelier, je le fais à la maison.
Et vous
donc
êtes...
avec le temps libre.
Vous avez formé des jeunes depuis ?
Oui, il y avait eu par exemple une formation à Avrancourt où on a formé des élèves. On a constaté que beaucoup étaient intéressés par l'entrepreneuriat et surtout l'art.
Et aujourd'hui,
donc j'ai décidé alors de former des jeunes.
Aujourd'hui, Eunice, si vous aviez le choix, vous aimeriez être entrepreneuse à temps plein, à part entière ?
Entrepreneurs à temps plein, ce qui favorise dans l'entrepreneuriat, c'est qu'on n'est pas au bureau 24. Même en entreprenant, il y a des heures libres où on peut passer à d'autres préoccupations.
Ouais, ça vous plaît d'avoir deux métiers à la fois, finalement, Eunice ?
Oui, ça favorise le climat.
Merci de nous avoir appelé, Eunice. On le voit bien quand même, Marie-Éloi, on en parlait pendant la chanson. Il y a beaucoup de femmes qui ont envie de se lancer dans l'entrepreneuriat, qui ont des qualités, qui arrivent à conduire un petit business. Ça reste tout petit. Et en plus, on a le sentiment qu'elles sont tombées dans cet entrepreneuriat par accident. Autant dire que, vu de loin, regardé par les hommes, il y a de quoi sourire.
Alors déjà, merci Nice pour le témoignage. Oui, effectivement, l'entrepreneuriat féminin, c'est énormément de toutes petites entreprises. C'est la très grande majorité des petites entreprises. Après, on a quelques femmes dans le digital qui lèvent des millions, des jeunes femmes de 25 ans qui lèvent des millions, mais nous, on a forcément du mal à s'identifier à elles. Après, on a quelques femmes très capées à la tête de très grandes entreprises. Mais entre les deux, c'est un no woman's land. Il n'y a plus de femmes. Au-delà de 10 salariés, des entreprises de 10 salariés, il n'y a plus que 14% de femmes, 86% d'hommes. Donc, on a un déséquilibre énorme. Et on a, tout à l'heure, vous disiez, on parle des femmes aujourd'hui, mais on a besoin des hommes, hein, pour changer les choses. Donc, ouvrez-nous les portes, aidez les femmes entrepreneurs autour de vous et encouragez-les.
Et alors, ce qui est intéressant, c'est que les chiffres que vous donnez, c'est bien pour la France. Hein, on est bien d'accord.
Oui, et puis c'est partout dans le monde, en fait.
12% des créatrices d'entreprises vivent correctement de l'activité, de leur activité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que finalement, elles se disent entrepreneuses, elles ne gagnent absolument pas d'argent.
Et c'est tout l'intérêt. Oui, c'est ça, c'est ça. Et on voit des histoires catastrophiques de maisons vendues, d'hypothèques, de oui, c'est dur, c'est vraiment dur, et de d'entreprises fermées. Et c'est ça qu'il faut changer. Et je me suis dit, mais pourquoi finalement nous les femmes entrepreneurs, on a tant de mal à s'approprier les codes économiques, c'est-à-dire prospecter, parler d'argent, c'est le plafond de verre des femmes entrepreneurs. Pourquoi? Et en fait, c'est tout simplement parce que depuis toujours, tout le monde économique a été formé, formaté par un monde uniquement masculin. Et on est tous composés de masculin et de féminin, donc c'est pas... voilà.
C'est pas un problème de diplôme, c'est pas un problème de formation.
C'est un problème de mentalité, d'historique, de poids culturel, sociétal. Et du coup, on se sent pas légitime, donc on se sent pas légitime pour parler de son entreprise, montrer son expertise, prospecter, se dire, voilà, j'ai un prévisionnel, ce mois-ci, je dois rentrer tant de nouveaux clients, comment je fais pour atteindre ces objectifs? Tout ça, on n'a pas ces codes-là. Et ça, il faut les créer ensemble. Il faut créer de nouveaux codes où il y a du féminin également, et ça, c'est au bénéfice de tous, pour les hommes aussi. Hein.
Mais les femmes ont une relation différente à l'argent. On n'est pas complètement dans le cliché, là?
Ah bah non, on n'est pas complètement dans le cliché.
Les femmes des cercles de bouche ta boîte, hein.
Alors, les femmes de bouche ta boîte, elles ont envie de bien en vivre. Hein. Ce sont les bougeuses, ce sont les locomotives sur leur territoire, celles qui ont décidé de, ensemble, bien vivre de leur activité en s'entraidant et en se recommandant avec les unes grâce aux autres. Mais je vais vous donner un exemple qui est mon exemple personnel. Moi, j'étais avec deux enfants au RSA, j'étais bénévole à plein temps. Et je gagnais pas ma vie. Mais ça, c'est toutes les femmes. Hein. Moi, parler d'argent, c'était super dur pour moi. Et je me suis dit, mais pourquoi? Pourquoi? Alors que si on veut donner de l'impact à tout notre sens, bah, l'argent, c'est une énergie. Il faut s'en servir pour justement transformer la société.
Est-ce que les femmes n'ont pas également tendance à imaginer des projets trop petits à la base, par peur de l'imposture, qui intéresse peu les investisseurs, Marie-Alix de Puter?
Alors en fait, il y a effectivement cette problématique-là de « je ne suis pas légitime, donc je vais demander tout petit parce que je pense que je ne mérite que tout petit ». Ça, c'est le premier step. Le deuxième step, c'est souvent les investisseurs, il faut savoir que dans la chaîne de l'investissement, on commence souvent par le love money, ensuite on a la banque ou le microcrédit, et entre la banque et les VC, donc private equity, il y a les business angels. Et c'est pour ça que c'est très important d'avoir des femmes business angels et de développer cette activité, parce que souvent les tickets vraiment pour que les femmes puissent vraiment se développer et rebondir.
Les tickets, c'est le montant des prêts. Les investissements.
Tout à fait. Ne sont pas suffisamment importants pour intéresser les fonds d'investissement qui, eux, vont s'intéresser à des montants tels qu'un million, etc. Et donc, il y a un gap. Mais ce gap, on le retrouve dans la société, de toutes les façons. On disait tout à l'heure, les femmes, dans les grandes écoles, en France en tout cas, sortent plus diplômées que les hommes. Mais après, vous allez les retrouver dans les entreprises, et elles vont être moins payées que les hommes. Déjà parce qu'il y a un problème de négociation du salaire. Savoir que l'argent, c'est quand même un sujet tabou encore pour les femmes. Donc il faut vraiment qu'on en parle et que ça devienne normal de parler d'argent et de revendiquer par rapport à sa valeur.
Souvent, une femme, elle me dit, mais si je parle d'argent, je vais trahir mes valeurs. Si je fais du business, si je fais grandir mon entreprise. Or non, ça va ensemble. On peut faire du business avec du sens, avec de la bienveillance. On n'est pas obligé de se transformer en requin.
Vous nous appelez au 33 1 84 22 71 71. On va donner la parole à une voisine que vous connaissez bien, mesdames, Mamisa Nziguiré-Poindron, bonjour.
Bonjour Emmanuel.
Mamisa.
Bonjour tout le monde.
Bonjour Marie. Vous avez fondé l'agence de communication événementielle qui s'appelle Privilège à Kinshasa en RDC il y a plus de 10 ans. Et vous lancez aussi le premier cercle en Afrique de Bouge ta boîte. J'aimerais que vous nous disiez juste en quelques mots comment vous êtes devenue entrepreneuse, par quelles galères vous êtes passée, Mamisa.
Là, j'ai rejoint ce qu'avait dit Marie-Alice. C'était un choix sur le tas par besoin. Moi, j'ai terminé mes études en 2001 et j'ai déposé mes demandes d'emploi un peu partout. J'avais du mal à trouver parce qu'il n'y avait pas de réponse. Et là, au bout d'une année, j'ai décidé d'aller, de créer ma société. Et bien sûr qu'à l'époque, il n'y avait pas de banque, il n'y avait pas, on ne pouvait pas trouver les financements. Et moi, mon financement, pour mon cas, moi, c'est mon époux qui m'avait donné les financements pour démarrer. Ça, c'était une entreprise que j'avais avant. Mais l'agence Privilège, moi, je l'ai créée en 2007. Voilà, c'était au fait par mes économies, par rapport à la première entreprise que j'avais. J'ai pu ouvrir l'agence Privilège pour justement organiser des événements importés de la France et du Brésil.
Alors aujourd'hui, vous avez commencé, pour parler vraiment cash, hein, vous avez commencé avec une crêperie, parce que vous avez épousé un Breton, Mamisa. Vous avez commencé avec une crêperie à Kinshasa, mais c'est vrai qu'il fallait oser, hein,
oui.
Donc ça a très bien marché.
Il fallait oser.
Et là maintenant, vous avez monté votre entreprise de communication événementielle. Vous êtes centré, exactement. Essentiellement, vos clients sont spécialisés dans le secteur financier. Bon, bah, vous êtes effectivement, vous avez bien compris que c'est là qu'il y avait de l'argent en plus. Hein. Mais dans un pays comme le vôtre, la RDC, où l'emploi est à plus de 90% dans le secteur informel, est-ce que vous vivez une difficulté supplémentaire en dehors du fait d'être une femme, et c'est d'être une femme dans le secteur formel qui, lui, est dominé par les hommes?
Ah oui, c'est vrai que la difficulté, c'est ça. C'est vrai, vous avez raison. C'est les femmes entrepreneurs, bon, qui se disent entre guillemets entrepreneurs, évoluent dans un secteur informel. Parce que justement, il n'y a pas d'encadrement, parce que justement, il n'y a pas d'information ni la formation. Moi, dans mon cas, étant dans le formel, les difficultés, oui. Parce que ce n'est pas lié au fait qu'il y ait autant de monde d'autres femmes, enfin, la concurrence en informel, non. C'est que étant femme, dans le secteur où j'évolue aujourd'hui, je me suis spécialisée dans le secteur de finances, ce n'est pas facile non plus, parce qu'il faut convaincre, arriver à convaincre par rapport à son projet. On peut avoir un bon projet, mais ça prendra tellement beaucoup de temps, et parce qu'on ne se retrouve pas dans le cercle fermé, on ne sait pas vous financer. Ça, c'est un problème. Aussi parce que on se retrouve, moi étant dans mon secteur, avant que je puisse adhérer à Bouge ta boîte, c'était que j'étais seule au fait. Je me suis retrouvée seule, je ne savais pas. Bon, je tournais en rond. Ouais. Je peux aller au niveau de
ouais. Alors maintenant, vous tournez en rond, mais dans un cercle, hein, donc du coup, avec d'autres femmes. Donc, vous ne tournez plus en rond, en fait, paradoxalement.
Là, maintenant, c'est fini, parce que c'était ça, ce que je voulais, c'est que trouver un réseau qui allait, au fait, m'amener à développer mon entreprise et moi-même.
Ouais. Merci beaucoup, Mamisa Nziguiré-Poindron, d'avoir été en ligne avec nous. Un auditeur nous appelle de Dakar au 33 1 84 22 71 71. Bonjour, Babacar.
Bonjour Emmanuel, comment vous allez?
Eh ben, très bien, et vous-même?
Oui, ça va très bien.
Alors, ben, on est ravis d'accueillir un voisin. Oui. Qu'est-ce que vous avez à nous dire sur le sujet? Je crois que vous êtes salarié d'une entreprise de microfinance.
Effectivement, je suis analyste financier. Et actuellement, dans notre métier, souvent dans notre milieu, on finance jusqu'à plus de 150 femmes par an.
Ah oui.
Avec
des financements qui vont à peu près, qui tournent autour de combien, pour qu'on ait une idée?
Juste de 200 000 vers les millions. Ça dépend de l'activité des femmes.
200 000 à 1 million de francs CFA, c'est ça?
À plus d'un million, 3, 4, 5, ça dépend de l'activité, quoi.
Qu'est-ce que vous constatez aujourd'hui quand vous financez ces femmes?
Oui, je constate qu'il y a beaucoup de détermination, il y a beaucoup d'abnégation. Oui, malgré qu'il occupe déjà le rôle d'épouse, le rôle de femme et aussi le rôle de chef d'entreprise qui n'est pas voilà, facile.
Sur le plan de la rentabilité surtout, c'était ma question.
Voilà, sur le plan de la rentabilité, elle s'en sort bien. Oui, malgré la conjoncture financière au Sénégal, malgré ça, beaucoup de femmes qui ont démarré les startups s'en sortent tant bien que mal.
Ça veut dire que vous, en tant que financeur dans une société de microfinance, vous dites que les femmes sont bankable?
Oui, la majeure partie, je dirais. De 70%, ils sont bankable. 70%, je dirais.
Merci d'avoir été en ligne avec nous. On prend une dernière voisine qui nous appelle Rokhaya, 48 ans à Dakar également, a créé une entreprise de logistique. Bonjour Rokhaya.
Bonjour Emmanuel.
On vous écoute, bonjour, c'est le mot de la fin. Il nous reste vraiment très très peu de temps avant la fin de l'émission.
Voilà, après plus d'une vingtaine d'années dans des multinationales, j'ai décidé de créer mon entreprise de logistique face au plafond de verre. Et donc, j'ai commencé à travailler sur fonds propres, mais avec le développement de mon entreprise, j'ai eu besoin de financement. Et ça a été la croix et la bannière pour trouver des fonds. Il me fallait une garantie de 9 500 €.
Wow.
Par exemple, au mois de juin dernier, et j'ai tapé à plusieurs banques, compagnies d'assurance, impossible de l'avoir. Et j'ai eu une petite idée, j'ai une amie qui était dans les finances. Je l'ai appelée un jour, j'ai pensé à elle, et en une semaine, elle m'a réglé le problème.
Sororité. La force du réseau. Merci Rokhaya d'avoir été en ligne avec nous. Quand on disait que les créatrices d'entreprises sont souvent d'ailleurs dans des secteurs où on les retrouve dans la division du travail, bah Rokhaya voilà, a créé son entreprise de logistique. Il n'y a pas beaucoup de femmes dans ces secteurs-là. Marie-Éloi, bouge ta boîte. Un réseau à retrouver évidemment sur Internet pour avoir toutes les informations. En conclusion, quels sont les messages que vous voulez faire passer à l'heure actuelle ?
Alors, il y a une phrase que j'adore, c'est le prochain marché émergent, ce n'est pas la Chine, ce n'est pas l'Inde, ce sont les femmes. Et notamment les femmes du continent africain. Donc, bougeons-nous ensemble. Je voulais juste aussi remercier Mamisa Ndigiré-Poinon que vous avez appelée, parce qu'elle m'a appelée, elle m'a dit « Mais moi, je veux bouge ta boîte à Kinshasa, je vais le faire. » Elle était pionnière, elle était leader. Et si elle arrive à vraiment faire fonctionner le cercle, j'espère qu'il y aura d'autres bougeuses partout sur le continent qui auront envie de nous rejoindre. En tout cas, elles peuvent nous envoyer un mail sur bougetaboite.com.
Marie-Alix de Puter, il ne faut pas tellement attendre des plans gouvernementaux du type entreprendre au féminin, etc. La balle est dans le camp des femmes aujourd'hui, exclusivement. Est-ce que ce n'est pas un peu triste finalement?
Les femmes africaines sont à l'origine de 65% de la richesse du continent. Donc aujourd'hui, il est plus que temps d'investir dans les femmes, que les femmes investissent en elles-mêmes et surtout qu'elles sachent qu'elles ne sont pas seules. Nous sommes là, nous sommes ensemble, comme on dit, nous sommes ensemble et on ne lâche rien, on ne lâchera rien. Et nous sommes déterminés avec des partenariats tels que celui qu'on a avec Marie et d'autres. La sororité, c'est la clé en fait.
Un dernier conseil pour la route, Marie-Éloi, pour les femmes qui se lancent dans l'entrepreneuriat ou qui ont déjà démarré, mais c'est là que commencent les galères, d'ailleurs également pour les entrepreneurs.
Alors si vous avez ça dans les tripes, foncez parce que vous êtes légitime. Vous pouvez tout faire, allez-y. On est là avec vous.
Merci en tout cas à vous toutes. Marie-Éloi, bouge ta boîte, donc un réseau d'entraide de femmes entrepreneurs à retrouver sur Internet, bien évidemment, et des cercles dans plusieurs villes de France. Marie-Alix de Puter, Mamisa Ndigiré-Poindron, merci à vous aussi d'avoir été avec nous. Et merci à toute l'équipe, Sigrid Azerwal, Delphine de Dianous, Romain Dubrac. Bien sûr, vous retrouvez toutes nos émissions sur Internet en podcast. Demain, chez 7 milliards de voisins, rediffusion de l'émission sur la dispute dans le couple. Il y a ces couples à l'amour feutré, et puis un jour tout passe, tout casse, sans même un orage. Et il y a ces couples qui s'aiment avec des assiettes qui volent aussi, des injures, des cris et des larmes de réconciliation. La dispute est d'un grand secours, sans elle on dormirait tout le temps, écrivait Jean de La Fontaine. Alors quelles sont les raisons des conflits conjugaux? La discorde a-t-elle une dimension salvatrice dans le couple, ne serait-ce que dans les effusions de la réconciliation? À moins que certaines petites phrases de vipère ne laissent un goût amer. Bref, comment bien se disputer? On en reparle demain. Tout à l'heure.